Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. L'idée que je me fais d'une théorie en biologie est assez éloignée de cette biologie théorique mise en équation de phénomènes observés ou photographiés. J'en ai une conception plus simple, plus concrète. Non pas cette description mathématique de ce qui est vu, mais un modèle évolutif, un outil bricolé, avec des mathématiques peut-être, mais aussi de la langue naturelle, et qui sert avant tout à comprendre ce qu'on ne voit pas, à deviner sous le visible l'invisible du vivant, sa logique sous-jacente, dont rien ne dit qu'elle relève de la logique mathématique. D'ailleurs, une mathématique du vivant, elle reste à inventer, se situerait plus probablement, c'est une intuition, du côté de la géométrie. Alain Prochian, leçon inaugurale, géométrie du vivant. Alain Prochian, vous dirigiez le département de biologie de l'École normale supérieure jusqu'en 2006, avant d'être élu professeur au Collège de France, dont vous dirigez actuellement le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie. Vous êtes titulaire de la chaire processus morphogénétique. Vous avez prononcé votre leçon inaugurale le jeudi 4 octobre 2007. Cette leçon est publiée chez Fayard et s'intitule « Géométrie au pluriel du vivant ». Vous êtes bien entendu membre de l'Académie des sciences et vous présidez le comité de la recherche de la Fondation pour la recherche médicale. Vous avez organisé un colloque en 2009 sur le deuxième centenaire de la naissance de Darwin. Le recueil des interventions a été publié en 2010 chez Odile Jacob et votre très récent livre « Qu'est-ce que le vivant ?» est paru aux éditions du Seuil. Vous participez également à des mises en scène de théâtre à caractère scientifique avec votre ami Jean-François Perret. Vous avez collaboré d'ailleurs ensemble à l'écriture de la pièce « Ex vivo in vitro » créée au Théâtre de la Colline en novembre 2011. Alain Prochian, bonsoir. Merci de nous recevoir afin de vous livrer une fois de plus à cet exercice de diffusion de votre savoir auprès de nos auditeurs. Alors, comment devient-on le biologiste que vous êtes devenu et comment avez-vous commencé à vous poser les questions qui se résument dans le titre de votre dernier ouvrage, « Qu'est-ce que le vivant ?»
Comment on devient biologiste comme pour le reste, par hasard, hein. C'est une série de hasards qui forment le destin à la fin.
Des rencontres ?
Oui, des choix positifs, des choix négatifs, aussi des choses qu'on ne veut pas être. Hein. Je pense que l'histoire d'une vie, c'est aussi l'ensemble des choses qu'on n'a pas faites. Donc, en l'occurrence, je ne voulais pas être ingénieur, des choses comme ça. Et puis, le milieu de la recherche, c'était un milieu où il y avait une grande liberté. À l'époque, en tout cas, encore toujours maintenant, moins probablement. Mais donc, ça m'allait assez bien, quoi. C'est surtout la liberté, en fait, du métier qui m'a attiré vers ce métier. À partir de là, pourquoi la biologie ? Bon, parce que probablement, je n'étais pas assez bon pour faire des maths, de la physique, donc je me suis rabattu sur la biologie. Voilà.
Et pourquoi pas des lettres, par exemple ?
Des lettres, oui. Ça ne m'aurait pas déplu, probablement. L'occasion ne s'est pas présentée. Voilà. Donc, j'étais parti dans une carrière de sciences. Et puis, j'ai peut-être pas eu le courage de faire marche arrière. Je sais pas. Vous savez, là, c'est difficile de se repencher sur ces choses-là. Il faut mieux penser à l'avenir qu'au passé, même si l'avenir n'est plus très long. Mais enfin bon, c'est comme ça.
Alors, depuis justement que vous avez commencé à faire de la biologie, comment les questions ont-elles bougé jusqu'à aujourd'hui, les grandes questions que vous posez, par exemple dans votre livre « Qu'est-ce que le vivant ?»
Non, les grandes questions ne bougent pas énormément. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, à travers les différentes activités que vous avez eu la gentillesse de rappeler, je me suis livré à des lectures diverses, des lectures d'anciens, des lectures de Claude Bernard, des lectures de Darwin, des lectures de Turing, des lectures de Haldane, enfin tous les grands biologistes, plus ou moins, y compris celle de Schrödinger, d'ailleurs, qui n'était pas un biologiste, mais un physicien, qui a écrit « Qu'est-ce que la vie ?», non pas « Qu'est-ce que le vivant ?». Et ce dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est que les questions ne sont jamais véritablement résolues, c'est-à-dire qu'elles évoluent dans la façon dont elles sont posées. On a des façons différentes de les interpréter ou d'y apporter des solutions partielles et temporaires. Mais résoudre définitivement une question, en biologie en tout cas, me paraît difficile, quoi. Allez, on peut poser des questions ponctuelles qu'on va résoudre. Mais les très grandes questions, par exemple l'origine de la vie, qu'est-ce que le vivant ? En quoi le vivant est à la fois non vivant parce qu'il est fait de matière, en même temps vivant parce que c'est pas une pierre, ça bouge par exemple, ça se reproduit, ça évolue, ça meurt. Ce sont des grandes questions qui sont posées à la biologie et qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas vraiment trouvé de solution, même si des théories qui permettent d'en rendre compte, par exemple la théorie de l'évolution, sont des théories qui évoluent, hein, ce ne sont pas des dogmes tant que ça évolue. Donc la façon dont Darwin posait la question en 1859 dans l'origine des espèces, la façon dont nous posons aujourd'hui les questions sont évidemment complètement différentes. Mais la question demeure, celle de l'évolution, de ces mécanismes, de comment ça fonctionne, tout ça, quoi.
Vous reprenez donc à nouveau frais le débat entre Bichat, pour qui commençait la vie et l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Et enfin, Foucault avait longuement commenté ce texte, il est bien connu. Et entre donc Bichat et Claude Bernard, alors pour qui la vie, c'est la mort. Et vous y prenez alors vivement le parti bernardien.
Je pense que Bernard est très sous-estimé. C'est-à-dire que Claude Bernard, d'abord, c'est pour la plupart d'entre nous, vous, je ne sais pas, mais la plupart des gens qui ont passé leur bac dans les années, entre les années 60 et 70, un truc comme ça, c'est un pince somme, quoi. C'est l'introduction à la médecine expérimentale, quelle barbe Et en fait, parce que c'est présenté de façon, je dirais, très scolaire, c'est-à-dire, c'est présenté sous le thème, il y a une méthode, un petit peu, du coup, le discours de la méthode de la biologie, hein, l'équivalent de Descartes, mais Claude Bernard serait le Descartes de la biologie. Il aurait fait un discours de la méthode.
C'est passionnant, le discours de la méthode de Descartes.
Oui, bien sûr.
Ce sont ces méditations qui sont un peu plus complexes.
Mais comment trouver en biologie ? Alors, d'abord, le livre de Bernard n'est pas « Comment trouver en biologie », c'est l'étonnement de quelqu'un qui a trouvé. C'est complètement différent, c'est « Comment ai-je trouvé ?» Et d'ailleurs, tous les gens qui ont trouvé quelque chose, que ce soit petit, que ce soit grand, sont toujours surpris et en même temps vaguement inquiets. « Ai-je vraiment trouvé ? Comment ai-je trouvé ?» si vous lisez Darwin, vous vous rendez compte que c'est un ressassement, en particulier dans sa correspondance, c'est un ressassement très, 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 très important. On présente toujours les scientifiques comme des hommes de vérité qui résolvent des problèmes, et quand c'est fait, c'est terminé. C'est pas du tout ça. Je veux dire, il y a une grande inquiétude qui habite ces gens-là parce qu'ils ont fait des découvertes qui ont quand même bouleversé d'une certaine façon leur discipline et qui peuvent bouleverser aussi d'une certaine façon l'histoire de l'humanité. Et il y a une grande angoisse. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Comment je trouvais? Comment ça m'est arrivé cette affaire-là? Donc, le livre de Claude Bernard, c'est d'abord ça. Donc ce n'est pas ce côté recette de cuisine pour devenir un grand biologiste. L'autre chose, c'est que on sort d'une période qui est la période, je dirais, post-newtonienne, au cours de laquelle, au fond, le milieu, c'est les terres des physiciens post-newtoniens, c'est-à-dire que les êtres vivants sont des objets qui se déplacent dans un milieu, sont des objets matériels, ce qui est vrai, bien entendu. Hein. Je ne perds jamais l'occasion de dire que je suis matérialiste et athée, donc... je ne voudrais pas qu'on me soupçonne d'un quelconque vitalisme que ce soit. Mais ce que Claude Bernard introduit, c'est quelque chose qui est spécial au vivant. C'est-à-dire qu'il prend en compte la question physiologique. Alors quand on dit le vivant, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort, on reprend en fait un principe de la thermodynamique, le deuxième principe de la thermodynamique, qui est le principe de Carnot, où, au fond, l'entropie augmente, l'organisme maintient de l'ordre autant qu'il peut, et puis le jour où
ça lâche,
où ça lâche et hop, mazette, quel bon. Or, ce que dit Claude Bernard est beaucoup plus en accord avec ce qu'on sait de la physiologie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a des choses qui meurent dans un organisme, et à chaque instant, il y a des choses qui se recréent dans un organisme.
Hein? Vous dites d'ailleurs dans votre livre « Qu'est-ce que le vivant ?» qu'on perd chaque année son propre poids
en cellules, oui.
De cellules mortes, quoi.
Oui, mais en même temps, on recrée son propre poids en cellules. Et tout ça garde la même forme. C'est pour ça que la morphogénèse, c'est ce que Claude Bernard appelle l'embryogénèse silencieuse, qui est un terme absolument ravissant, qui a tout au long de la vie de la reconstruction de l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui apparaissent. Mais si les choses arrêtent de disparaître, ça peut être dangereux. Il y a des leucémies qui sont liées au fait que certaines cellules oublient de mourir. Hein? Et si vous avez des mutations qui font que des cellules lymphatiques oublient de mourir, vous pouvez avoir des leucémies qui sont liées justement à des mutations dans des gènes qu'on appelle des gènes de l'apoptose, des gènes qui entraînent la mort des cellules. Donc ce double mouvement de dépérissement et de reconstruction, et donc cette embryogenèse silencieuse, notre poids en cellules, mais aussi un nouvel intestin grêle tous les 5 jours, hein, sont des choses qui n'apparaissent pas quand on regarde, quand on fait un bilan énergétique. C'est-à-dire, grossièrement, on mesure ce qui rentre et on pèse ce qui sort et on dit le bilan, il est calorimétrique. Alors, ce n'est même plus le deuxième principe de la thermodynamique. Là, c'est le premier. Là. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais fondamentalement, il y avait une vision physicaliste et physico-chimiste du vivant qui se revendiquait du matérialisme, bien entendu. Cabanis, par exemple, le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile, mais qu'une vision extrêmement naïve philosophiquement du matérialisme. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et notre capacité de nous adapter en tant qu'individu mais justement lié à ce renouvellement permanent de l'individu. Hein, nous ne sommes pas des machines, justement. Et donc, c'est une chose qu'il faut penser. Je sais que ça, c'est angoissant, parce que c'est aussi vrai au niveau du cerveau. Hein. Donc, en fait, on finit par se poser la question, je suis moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je change de cellule tous les ans, qu'est-ce qu'être soi, hein? Alors, on garde les mêmes neurones, mais pas toujours. On a des neurones qui... Il y a aussi de la neurogénèse chez l'adulte, et puis les neurones changent de forme, etc. Donc, c'est penser le vivant comme cette chose extraordinairement instable qui se détruit à chaque instant et se reconstruit à chaque instant, parce que Claude Bernard dit la vie c'est la mort, mais il dit aussi la vie c'est la création, hein, c'est-à-dire qu'il y a les deux doivent s'équilibrer. Et puis quand ça s'équilibre mal, quand ça se répare mal, eh ben vieillissement et bascule, hein, voilà.
On disait tout à l'heure, Alain Prochian, que vous dirigiez actuellement le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie au Collège de France. Si vous permettez, j'aimerais, au fond, vous poser quelques questions sur des notions tout à fait banales, communes, des notions que tout le monde emploie, en quelque sorte, et je voudrais vous demander de les revisiter avec nous. Alors, pour le biologiste que vous êtes... est-ce que je peux vous demander ce qu'est un corps? Votre corps, mon corps, celui de notre ami technicien.
Vous voulez dire un corps vivant?
Un corps vivant, c'est quoi?
Un corps vivant, c'est un assemblage de cellules vivantes qui ont une certaine forme et qui sert certaines fonctions, c'est-à-dire des fonctions physiologiques de nutrition, respiration, pensée, tout ce que vous voulez. Donc il faut à la fois beaucoup de cellules. Tout démarre d'une cellule. C'est-à-dire, quand on y pense, c'est quand même miraculeux. Vous prenez un œuf de poule, il sort une poule. C'est quand même, ça a l'air simple comme ça. C'est vraiment, c'est une manip qui ne rate pas. Mais quand vous y réfléchissez, et quand un œuf de sapiens, il sort un sapiens. Donc ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple parce qu'une cellule, c'est un œuf, c'est une cellule. Et vous êtes milliardaire en cellules et vous avez tout un grand nombre de cellules qui tiennent ensemble. De toute façon, là aussi, Bernard est là avec le milieu intérieur. Cette chose qui permet d'unifier un organisme dans son entier à partir d'une hétérogénéité incroyable de cellules et d'organes qui ont des fonctions différentes, mais coopèrent finalement pour que l'objet final, qui justement n'est pas final, comme on vient de le dire, puisqu'il se renouvelle en permanence, ait une véritable capacité à survivre, au moins le temps de se reproduire. Le corps, c'est un assemblage de cellules, mais qui sont toutes nées d'une même cellule. Et au cours du développement, les organes se mettent en place progressivement à la suite de différenciation, de mort, de migration, pour aboutir à ce qu'on appelle l'imago, c'est-à-dire l'image de l'espèce, Hein. C'est-à-dire que s'il y a un singe qui passe la porte, je sais reconnaître que c'est un singe. Donc l'image du singe est là, l'image de sapiens est là, c'est pas la même chose. Et que cet imago, eh bien, cet individu est vivant. C'est-à-dire que bon, il peut survivre un certain temps. Ça veut dire qu'il est vivant. Donc il est adapté à son milieu. Et son renouvellement permanent fait qu'il continue de s'adapter à son milieu à travers ce qu'on appelle son individuation. C'est-à-dire.
Alors j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que l'individuation, justement?
L'individuation, c'est-à-dire que je dis souvent, on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. C'est-à-dire que c'est une manip que je fais souvent quand j'essaie d'expliquer la chose. Si je prends un interlocuteur qui a une quarantaine d'années, par exemple, et que je le rajeunis de 20 ans, par la force de la pensée, c'est une manip par la pensée, comme les physiciens en font beaucoup, et puis qu'ensuite je le fais revieillir de 20 ans, 20 ans plus tard, ce n'est pas la même personne. Elle n'est pas en face de moi, elle n'a pas eu les mêmes expériences de vie, c'est-à-dire elle n'a pas eu les mêmes amours, les mêmes métiers, rencontré les mêmes gens, son cerveau est différent, elle c'est une personne différente. Donc ce qui veut dire qu'au cours de notre vie, nous nous modifions par individuation, c'est-à-dire que nous nous adaptons au milieu qui lui-même est changeant au cours de l'existence et qui est diversifié. Donc l'individuation, c'est une force d'adaptation. Il y a d'autres façons de faire de l'adaptation. Par exemple, si vous êtes un organisme extrêmement simple, genre une bactérie ou même un petit ver nématode de 1050 cellules ou 1060 cellules, je ne sais plus, qui se reproduit très vite, si le milieu change, la meilleure façon de s'adapter, ça peut être de l'individuation, bien entendu, c'est-à-dire que la bactérie peut changer son métabolisme, par exemple, en fonction du milieu extérieur, ça arrive, hein, c'est beaucoup de manips ont été faites comme ça. Mais aussi, une autre façon, c'est de sélectionner un mutant. C'est-à-dire que comme la reproduction se fait très rapidement, on va sélectionner un mutant qui sera mieux adapté au nouveau milieu. C'est un darwinisme de base, quoi. Hein. Mutation, sélection, en fonction du milieu. Mais chez Sapiens, et même chez les mammifères d'une façon générale, ou chez les vertébrés, en général, on se reproduit beaucoup moins. C'est-à-dire que nous, on se met à deux pour en faire 2,1, et ça nous prend une quarantaine d'années. Cette technique d'adaptation n'est pas très efficace. C'est-à-dire que si c'était comme ça qu'on s'adaptait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sélection naturelle encore chez Sapiens, mais si on s'adaptait comme ça, évidemment, on n'irait pas très loin. Donc l'adaptation repose pour une beaucoup plus grande part sur l'adaptation de l'individu, donc aussi sur son individuation, sur ses capacités, à faire entrer dans sa structure cérébrale, pour l'essentiel, son expérience, et donc de répondre, d'une certaine façon, à cette expérience en changeant sa façon d'être, en étant même un autre, d'une certaine façon.
Est-ce qu'on peut penser, Alain Prochian, qu'un grand traumatisme, pas physique, mais culturel ou psychique, peut transformer durablement la matérialité corporelle de l'homme et même, disons, se transmettre?
Quid de l'influence catastrophique d'un événement extérieur sur nous? Certainement, des événements extérieurs peuvent avoir des influences à la fois sur la physiologie, hein, c'est-à-dire sur les neurones eux-mêmes. Hein. Par exemple, si quelqu'un a on appelle ça les syndromes post-traumatiques, par exemple. Beaucoup de gens qui ont fait la guerre et qui ont... On voit ça avec des gens qui reviennent d'Irak actuellement, qui ont été exposés à des catastrophes effrayantes en Irak, des explosions, des attentats, des... Quand ils rentrent ensuite, même apparemment intacts, hein, ils rentrent aux États-Unis, chez eux, et puis quelqu'un allume une allumette pour le barbecue et ils généralisent à quelque chose de l'ordre d'une grande catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus capables de dire « oui, c'est un barbecue ». Tout d'un coup, ce qu'ils revivent, c'est le traumatisme.
Mais ça fait revivre le traumatisme, mais est-ce que c'est...
Mais ça, c'est engrangé dans le cerveau. Oui. C'est quelque chose qui... Parce qu'il y a une trace dans des régions du cortex, en particulier des régions qu'on appelle des régions du genre l'abénula, l'amygdale, le noyau basolatéral de l'amygdale, des choses comme ça. Donc, ce qu'on appelle, c'est l'extinction de la peur. Hein, c'est ben, non plus d'extinction de la peur. C'est-à-dire que... Donc ça, c'est des choses qui sont probablement inscrites dans les réseaux neuronaux, qui seront très difficiles à dénouer pour remettre en place. Et puis, il y a pas des modifications, ça que vous voulez me faire dire, du génome. Donc, oui. Je suis bien votre pensée, mais je me permets de moduler un petit peu, parce que c'est intéressant aussi que ce soit pas uniquement génomique, parce que la trace épigénétique chez Sapiens, elle n'est pas uniquement au niveau de la modification du génome, elle est aussi au niveau de la construction et de la modification des réseaux de neurones, là où notre mémoire est quand même, d'une certaine façon, inscrite, engrangée. Le temps s'inscrit quand même dans une modification de la matière, et une des formes de la matière qui se modifie, eh bien, c'est les réseaux neuronaux, en tout cas, c'est la structure cérébrale. Parce qu'il n'y a pas que des neurones dans le cerveau, il y a plein d'autres trucs qui participent à ça. Donc, et ça, c'est quand on parle de plasticité cérébrale, par exemple, de période critique, au moment où on peut apprendre le plus quelque chose, ça correspond à une grande phase de plasticité cérébrale, morphogénétique, où les synapses se font, se défont, se refont à toute vitesse, quoi, pour engranger l'information. Si vous voyez un môme poussé, c'est quand même étonnant, on a besoin d'une éponge, la base entre un an et cinq ans, ça se rentre le truc là-dedans, c'est quand même miraculeux, quoi, de voir ça à chaque fois. C'est un drôle de truc. Donc, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Si vous les mettez dans la rue, c'est plus dangereux que de mettre un vieillard. Hein. Il a plus de chances de se faire écraser. Donc, mais ils ont énormément de choses à apprendre. Et le cerveau, à ce moment-là, une machine à absorber le truc. À chaque fois, c'est bluffant. Hein. Donc, pour reprendre à votre question épigénétique, mais alors, si on a du génome, oui, le génome peut changer. Alors, il y a deux façons que le génome a de changer. C'est-à-dire que le génome, c'est de l'ADN, hein, donc ATGC, des bases comme ça, mais ce n'est pas uniquement ça. Ces bases peuvent être sont entourées de protéines, qu'on appelle de la chromatine, et donc tout n'est pas exprimé dans un génome. D'abord, bon, ça va amener à dire des choses un tout petit peu, je ne sais pas combien de temps j'ai pour dire ça, mais les protéines, le génome qui exprime des protéines, celles avec lesquelles on fabrique l'individu, c'est 1 à 2% du génome. Tout le reste, c'est des séquences régulatrices qui soit ne codent pour rien, mais qui sont importantes parce qu'elles régulent, soit qui codent pour des ARN qui ne sont pas traduits en protéines et qui sont des ARN régulateurs aussi. Donc, l'essentiel du génome, c'est quelque chose qui régule, d'accord ? Et ce génome est habillé par des protéines, ça fait appel à la chromatine. Et donc, pour aller très vite, si vous voulez, tout ne s'exprime pas dans un génome. Par exemple, si simplement je prends une cellule de la peau et je prends un neurone, ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont exprimés dans les cellules de la peau et dans les neurones. Ça veut dire que tout le génome ne s'exprime pas. Donc il y a une régulation de l'expression qui est liée soit à des modifications des protéines qui entourent le génome, soit à des modifications du génome lui-même à travers essentiellement des méthylations, des petits méthyls, des petits CH3 qui viennent se mettre sur des cytidines dans des îlots qu'on appelle cytidine-guanine, CPG. Et ça, c'est régulé. Et ça, c'est des régulations qui peuvent être extraordinairement fortes. C'est-à-dire que ça peut durer toute la vie, par exemple. Donc, on peut, en fonction de l'expérience, avoir des modifications du génome dans certaines régions qui font qu'après, ce ne seront plus les mêmes gènes qui sont exprimés qu'avant, ou pas dans les mêmes quantités, ou pas dans les mêmes circonstances. Et donc là, il y a dans le génome des cellules nerveuses, puisqu'on va parler de ça, quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversible. Et puis, il n'y a pas que le système nerveux, il y a les gamètes. Hein, et alors là, vous pouvez avoir, sous l'effet d'un stress, des modifications dans les gamètes. Hein, et ça peut même devenir intergénérationnel, parce que si vous touchez un spermatozoïde qui a été drôlement modifié, que c'est celui-là qui gagne la course à l'ovule, quand tout le monde part là, dans le machin et que c'est le premier qui arrive qui rentre dans l'ovule, si c'est lui qui gagne, cet effet du stress sur le père... va avoir des effets sur la
descendance. Voilà.
Ça reste darwinien. Attention, ce n'est pas lamarckien. Ça reste darwinien parce que c'est une sélection naturelle qui se produit au niveau des spermatozoïdes. D'accord ?
Si vous me permettez de continuer à poser des questions autour de notions communes et banales, pour le biologiste que vous êtes, qu'est-ce que la pensée ?
C'est une question intéressante, évidemment. Qu'est-ce que la pensée ? Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que, évidemment, je suis un biologiste assez respectueux des autres disciplines. Tous les biologistes sont respectueux des autres disciplines, mais il y a une chose dont je suis assez conscient, c'est que, si vous voulez, un objet scientifique, par exemple, ce n'est pas uniquement l'objet lui-même, par exemple le cerveau, c'est l'objet et la théorie qui l'entourent. Hein. Donc, sinon, ça n'évoluerait pas, ce serait toujours le même.
Oui, bien sûr.
Donc, aujourd'hui, notre conception du cerveau est différente après Turing, avant Turing, par exemple. Et si je prends un cerveau que je jette à travers la pièce et que je mesure, que je calcule sa trajectoire en fonction de ses circonvolutions, ça ne fait pas de moi un biologiste, ça me fait de moi un physicien, d'accord ? Donc, le biologiste, il a besoin de concepts qui sont propres à la biologie. Et de ce point de vue, la biologie est une science à part entière, ce qui me rapproche de la conception bernardienne du vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer ça sur la physique, même si on a besoin des physiciens et des chimistes pour comprendre le vivant. Et donc, je pense que c'est important de comprendre les différences entre les disciplines, y compris les sciences humaines. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que la pensée pour un philosophe, sa définition, n'est pas forcément la même que pour un biologiste.
Oui.
Donc, il y a des catégories de la pensée qu'on étudie en philosophie. Et moi, j'ai une définition biologique de la pensée. Pour moi, la définition biologique de la pensée, c'est le rapport adaptatif entre le vivant et son milieu. Le vivant à deux niveaux. Le vivant, les espèces. C'est-à-dire comment les espèces entretiennent un rapport adaptatif au milieu, parce qu'il y a une lutte entre les espèces. Bien entendu, il y a une évolution des espèces, comme chacun sait. Et donc ça, c'est lié à un processus adaptatif, qui est une forme de pensée de l'espèce, j'allais dire spécifique, mais de l'espèce. Hein. Et puis, il y a aussi chaque individu qui a un rapport adaptatif au milieu, et ce rapport adaptatif, c'est sa pensée. Et ça veut dire que dans cette définition biologique de la pensée n'est pas l'apanage de Sapiens. C'est-à-dire que comme tous les animaux ont un rapport adaptatif au milieu, les bactéries, les plantes, les machins, même les animaux, vous voyez tout de suite, mais les plantes aussi, il n'y a que les cailloux qui n'ont pas un rapport adaptatif au milieu. Mais tout ce qui est vivant a un rapport adaptatif, et donc toutes les formes vivantes ont une forme de pensée. Pas la même, bien entendu. Le fait qu'on ait un cerveau aussi monstrueux que le nôtre fait que notre rapport au milieu est beaucoup plus compliqué et incommensurablement plus important que celui des autres espèces, et donc que notre pensée est beaucoup plus complexe grâce à notre cerveau. Mais il y a un autre avantage à dire que c'est un rapport, c'est qu'un rapport, ce n'est pas une substance, donc un rapport, ça n'a pas de place. La pensée n'est pas déposée dans le cerveau comme la confiture dans un pot, comme la bile dans le foie, pour reprendre la formule de Cabanis. C'est un rapport, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de lieu.
C'est pas un rapport mécaniste, hein, évidemment.
Voilà. Donc, je pense que cette définition, d'abord, elle est biologique, et deux, elle a l'avantage d'éviter le simplisme philosophique que je relevais tout à l'heure, sans le dénoncer, parce que c'était très bien à l'époque. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne pense pas aujourd'hui comme on pensait il y a simplement 200 ans. C'était déjà un progrès de penser comme ça. Aujourd'hui, ce n'en est plus un de continuer de penser comme ça. Donc, et en même temps, ça a aussi un avantage, c'est que même si les frontières entre les disciplines sont amenées à bouger, ben elles existent quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un jour la physique subsumera toute la biologie ou les neurosciences subsumeront toute la philosophie, toute l'anthropologie, etc. Ce que je pense ne pas devoir être le cas, en tout cas à court terme. Voilà, je ne vois pas venir pour l'instant.
Vous avez consacré d'ailleurs tout un chapitre à cette question dans votre dernier livre. Est-ce qu'on est le frère ou le cousin du singe, Alain Prochian ? Alors, je dis ça parce que j'ai appris justement, j'étais assez étonnée, que finalement, Sapiens, c'est une espèce extrêmement récente d'une certaine manière. C'est 200 000 ans, je crois. Donc, c'est une espèce jeune, récente, et qui est d'ailleurs potentiellement également en voie de disparition.
Là, toutes les espèces sont en voie de disparition. Tout a un début, un milieu, une fin dans le vivant. D'ailleurs, le problème.
Est-ce que vous pensez que l'homme pourra répondre à un certain nombre de questions qui le feront peut-être, qui prolongeront peut-être son...
Oui, ou qui accéléreront sa mort.
Bien sûr.
Oui, c'est compliqué ces histoires-là. Non, déjà pour la première, est-ce qu'on est les frères ou les cousins des singes ? Je pense que c'est des chimpanzés.
Donc, des chimpanzés, en effet.
Donc, il faut prendre les choses à l'origine. C'est-à-dire que on s'est séparés, si vous voulez, nous, en tant qu'hominidés, des singes, des chimpanzés, pardon, il y a environ 7 millions d'années. Donc, faut voir ça comme il y a une branche, et d'un coup, il y a une séparation, et d'un côté, on va vers sapiens, et de l'autre, on va vers les chimpanzés, d'accord ?
Et on ne sait pas du tout, on n'a aucune espèce d'hypothèse sur ce qui a, au fond, non, provoqué cette coupure.
C'était assez progressif, mais assez rapide, parce que 7 millions d'années, ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même 14 millions d'années entre nous et les chimpanzés, parce qu'il faut remonter 7 millions d'années et les redescendre de l'autre côté. Donc, ça fait en fait 14 millions. Bon, 14 millions d'années, si vous considérez que l'histoire de la vie, c'est 3,5 milliards d'années, bon, ce n'est pas la mer à boire, hein. Ce n'est pas énorme. Et puis, du côté de l'évolution des hominidés, ce qui est tout de suite apparu, c'est une augmentation de l'encéphalisation, c'est-à-dire plus de cerveau, trop de cerveau, d'accord ? Il existe une règle chez les primates de linéarité entre le poids du corps et le poids du cerveau, pour des raisons qui sont extrêmement simples, c'est-à-dire qu'un cerveau, ça sert à bouger. Les plantes n'ont pas de cerveau parce qu'elles n'ont pas besoin de bouger, tout leur arrive, hein. L'énergie, les nutriments, le sexe, par les airs, enfin, tout ça c'est formidable d'être une plante. Sauf que quand José Bové arrive, il arrive aussi, donc on ne peut pas courir. Donc, quand on est une plante transgénique. Hein. Donc, à ce moment-là, bouger, ça veut dire percevoir et réagir en fonction de ce qu'on perçoit. Et de ce fait, on voit bien que c'est un système qui a fois sensorimoteur, c'est-à-dire qu'il y a forcément une loi de linéarité entre le corps et le cerveau chez les primates. Et dès que vous passez dans les hominidés, vous vous rendez compte que cette loi n'est plus respectée. C'est-à-dire que nous, avec notre taille de corps, nous devrions avoir un cerveau d'environ 500-600 cm3. On en a 900, d'accord ? Alors évidemment, explosion du... Et pas n'importe où, hein, c'est pas n'importe quelle région, parce qu'il y a des régions qui, proportionnellement, se sont réduites, comme les aires olfactives ou les aires visuelles, mais les aires cognitives ou les aires du langage, elles ont augmenté de taille. Donc c'est plus qu'un facteur 4. Donc tout d'un coup, ça a dérapé, quoi. Le système a... Je dis souvent, nous, on est à nature par nature, parce que non, c'est quelques mutations qui ont provoqué ça, et assez rapide, puisque c'est vrai, c'est 200 000 ans, hein, l'apparence de sapiens, l'apparition de sapiens, c'est en gros 200 000 ans. Il y a des gens qui disent 120 000, d'autres qui disent 400 000, enfin bon, tout ça, c'est,
oui, enfin,
c'est pas très grave, c'est l'ordre de grandeur qui compte.
De toute façon, c'est très
donc,
récent.
Donc c'est très récent. Dans l'histoire de la vie, c'est environ, je ne sais pas, 2 secondes dans une journée de 24 heures, en gros, hein, alors. Est-ce qu'on va tenir encore 2 secondes ? Vous me demandez, j'en sais rien, moi. Je ne crois pas, honnêtement. Mais bon, tragique du vivant, c'est ça. Tragique de sapiens, c'est ça. C'est une espèce tragique, quoi. Rapide, et c'est un
et
animal tragique.
Et capable de programmer aussi. Même sa propre
et capable de savoir. Oui, mais en même temps, si vous voulez, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Donc, on peut trouver des solutions techniques à toutes sortes de problèmes qui vont arriver. Si on les trouve, elles seront forcément techniques. Parce que sapiens, c'est aussi un animal technique. C'est-à-dire que c'est 900 cm3 de trop, hein. Bon, justement, ça fait les poètes, ça fait les suicidés, ça fait les savants, ça fait les gens qui ont inventé la vie sociale, hein, très important, la vie sociale chez Sapiens, qui ont inventé les armes, qui ont le permis de se battre quand même, parce qu'un Sapiens, c'est pas glorieux sur le plan physique. Ça n'a pas de poils, c'est tout petit, ça n'a pas d'ongles, ça n'a pas de dents. Ça n'est démuni, on peut le bouffer tout de suite si on est un tigre normal. Donc... oui, c'est cette invention de ce cerveau nous a permis de via la technique, qui donc fait partie de la culture humaine même. C'est difficile à faire comprendre à quelqu'un qui pense qu'en dehors de Proust, je ne parle pas pour compagnon. Voilà, donc la culture, c'est uniquement ça. La science fait aussi partie de la culture. C'est même essentiel à la culture humaine. Sinon, on ne serait pas là depuis belle lurette. Alors maintenant, évidemment, on peut dire que ça va nous emmener dans le mur. Voilà, ça, c'est possible que ça va aussi nous emmener dans le mur. Mec, qu'est-ce que je vous dis ? C'est la vie. Hein. Mais on ne peut pas faire sans. Aujourd'hui, il y a des questions à résoudre qui seront résolues probablement par une nouvelle invention technique. Mais c'est aussi possible que tout ça crée les conditions de notre disparition. On ne peut pas dire le contraire. C'est sûr que depuis Hiroshima, on ne peut pas faire entièrement confiance aux savants. Là, ça, c'est clair, je veux dire. Mais bon, en même temps, voilà, quoi. C'est la vie.
Je suis résolument du côté d'une naturalisation de l'esprit, comprise comme l'étude des mécanismes cérébraux et aussi de la façon dont ils se développent et dont ils ont évolué, nécessaires à l'exercice d'une spécificité humaine qui se traduit dans nos organisations sociales et pratiques culturelles. Si je me concentre ici sur Sapiens, ce n'est pas parce que nous ne serions pas des animaux, mais parce que les modifications qui se sont produites dans le genre Homo nous ont, pour ainsi dire, comme sortis de la nature. Alain Prochian, leçon inaugurale, géométrie du vivant. Alors, vous prenez des positions très fermes dans votre livre. Vous dites que vous êtes pour l'expérimentation animale, que vous êtes pour les organismes génétiquement modifiés, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, comment est-ce que vous envisagez le rapport précisément aux autres vivants que Sapiens?
Je ne dis pas ni pour ni contre. J'essaye de poser les problèmes de façon rationnelle pour que le lecteur puisse s'en emparer et se faire une opinion autre que l'opinion non réfléchie. C'est-à-dire que les questions qui sont posées, par exemple sur l'expérimentation animale, bon, de toute façon, je suis forcément pour. Je suis dans un laboratoire où on fait beaucoup d'expérimentation animale. Et puis, pour comprendre le vivant, il faut expérimenter sur l'animal, sinon on ne peut pas. Je suis contre la souffrance des animaux. Donc la vraie question qui se pose pour moi dans ce cas-là, c'est que l'animal est un être sensible et qu'il faut, dans la mesure du possible,
lui éviter de souffrir.
Lui éviter la souffrance. D'ailleurs, je suis aussi pour éviter la souffrance des Sapiens, si possible. D'accord.
Oui.
Bon, oui, mais enfin, oui, souvent, il y a des endroits où il faut mieux être chien qu'autre chose. La souffrance de Sapiens m'importe plus que celle de l'animal, même si je sais que ce sont des êtres sensibles et que je pense que c'est une vraie question. D'accord ? Donc, je ne la méprise pas du tout. Donc, les OGM, nous sommes entourés d'OGM, c'est-à-dire que la question des OGM, elle a deux aspects. La première, c'est la maîtrise des semences. C'est-à-dire, est-ce que des grandes boîtes multinationales, Monsanto, Imagrain, tout ce que vous voulez, vont faire des semences qui vont obliger les paysans chaque année à racheter des semences, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus indépendants sur le plan du semis. C'est-à-dire qu'ils seront soumis et puis on va les compliquer. Et donc, par conséquent, il faudra racheter les antibiotiques qui vont avec, les machins, les trucs. Donc, d'une façon, asservir une certaine autonomie paysanne qui, dans des pays comme l'Afrique, etc., peut être une façon, franchement, de bloquer le développement, par exemple. Donc ça, ce sont des vraies questions politiques. Ce n'est pas des questions nouvelles. Le maïs hybride, dont on parle énormément de la vigueur hybride du maïs, c'est un truc qui date du 19e siècle, et c'était déjà un maïs stérile. C'est-à-dire que tous les ans, il fallait racheter les graines, hein, parce que les hybrides sont souvent stériles, comme le mulet, etc. Donc c'est pas une question nouvelle, c'est une question politique. C'est une question qui, à mon avis, mérite d'être posée sur le plan politique.
C'est une question économique.
Et je crois qu'elle doit être débattue ouvertement et rationnellement. Et puis, ça rentre dans le domaine, dans le champ de la politique. Mais la transgénèse, c'est pas uniquement ça. Hein. C'est aussi construire des formes vivantes qui vont permettre de pousser mieux quand il n'y a pas d'eau, de pousser dans le Sahel au moment de la sécheresse, de nourrir plus de gens, d'avoir des meilleurs rendements. Et donc d'avoir une fonction sociale qui est une fonction importante. D'une certaine façon, on peut les construire rationnellement aujourd'hui, ces animaux et ces végétaux transgéniques. Mais les vaches que vous voyez dans les prés, si vous promenez dans la campagne française, elle n'a rien de naturel. Elle est entièrement fabriquée. Donc il y a cette espèce de mythe comme ça qu'on est dans la nature. Alors, il y a des gens qui veulent rentrer les ours, les loups, les machins... et puis tant pis pour les bergers dont les moutons sont égorgés. Enfin, on voit des trucs aujourd'hui absolument ahurissants. C'est-à-dire qu'on a mis des siècles à se débarrasser de ces prédateurs. Maintenant, on nous les remet. on ne peut plus faire une promenade dans la montagne. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Mais bon, si les gens veulent ça, très bien. Moi, je suis démocrate. Hein, c'est la nation de décider. Mais si vous prenez une vache... Hein, eh bien, vous avez des vaches qui sont là pour faire de la viande, vous avez des vaches qui sont là pour faire du lait, il y a des vaches qui sont qui ont des propriétés différentes, qui ont un petit train derrière ramassé, donc on a un gros cul, des queutards. Donc, Et ça, c'est le résultat de croisements qui ont été faits systématiquement pendant des générations et des générations pour enrichir dans les gènes qui permettent ça. Donc, d'une certaine façon, même si ça n'a pas été fait rationnellement, en sachant quel gène il fallait mettre, etc., ça a été fait quand même. Donc, je crois qu'il faut dissocier les questions et puis apporter l'information. Et je crois que c'est ça qui est important, parce qu'on vit dans une société qui est très technologisée, même au niveau des animaux et des végétaux. Les gens ne s'en rendent pas compte, hein, et nos politiques non plus ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils ont une telle absence de culture scientifique que, au fond, ils ne maîtrisent plus rien de ce qui est au cœur des sociétés contemporaines, c'est-à-dire la science et la technique. Hein. Et ça, je pense que là, il y a un véritable enjeu politique et même démocratique. Donc, ce genre de livre n'est pas là pour faire des jugements ou donner des réponses pour montrer quelles sont les questions qui se posent et puis débattre. Et puis, si les gens ne sont pas d'accord, et ben c'est très bien, on débat, voilà, on est des démocrates quand même. Hein. On n'est pas des animaux comme les autres, voilà, c'est clair.
À ce sujet, je voulais vous demander deux choses. Puisque nous ne sommes pas des animaux comme les autres, nous sommes des animaux de culture et de langage. La science fait partie de la culture, certes, mais justement, vous faites du théâtre aussi avec Jean-François Perret. Quand vous écrivez, par exemple, Ex vivo in vitro et que vous le montez au tête de la colline, dites-nous un peu à quoi correspond ce type d'expérience et de travail.
C'est un petit peu compliqué. D'abord, je ne fais pas de théâtre, d'accord ? Jean-François
Vous
Perret.
Écrivez.
Bon, Jean-François Perret est un très grand metteur en scène, vraiment un très grand metteur en scène, qui fait du théâtre expérimental depuis toujours, qui a une très longue carrière. Il est encore plus âgé que moi, de peu, mais bon, il, quand même, vous voyez quel âge ça lui fait. Hein. Un jour, on s'est... Et Jean-François fait du théâtre autour de questions contemporaines. C'est-à-dire qu'il fait du théâtre expérimental. C'est-à-dire qu'il ne remonte pas le théâtre classique, mais il s'empare de questions qui sont dans la société et il essaye de poser des questions autour de ça. Et pour le faire, il est obligé, si vous voulez, de faire venir autour de la table, au départ, des gens qui connaissent un peu quelque chose à ces questions. Et quand il a monté des spectacles autour de Turing, en particulier, il savait que je m'intéressais à Alan Turing, il m'a fait venir pour discuter avec les acteurs. Et puis, on est devenus amis, et il m'a dit, à force de... Toi, pourquoi on ne fait pas des trucs ensemble ? Et ça rentrait dans une de mes préoccupations, qui n'est pas de faire de la vulgarisation scientifique, mais qui est de continuer à réfléchir sur la science, sur un mode qui est différent de celui qu'on a dans un laboratoire. En fait, quand je fais ces choses-là avec Jean-François Perret, par exemple, participer à l'écriture d'éléments qui entreront dans une partition... qui, au fil des répétitions, évoluera pour devenir une pièce de théâtre. Ce que je fais, c'est ce que j'appelle la science nocturne. C'est-à-dire que je continue à réfléchir sur mon objet scientifique. Avant, je le faisais en écrivant des livres de philo sur Claude Bernard, par exemple, ou la biologie dans le boudoir, ou des choses comme ça. Avant de connaître Jean-François, j'ai toujours eu ce besoin de ressasser des questions biologiques sur un mode qui n'est pas le mode de la rigueur scientifique diurne, d'accord ?
Du laboratoire.
Du laboratoire, de la preuve, etc. Mais du rêve, de l'imagination, qui, d'une certaine façon, de la connaissance des anciens, la relecture de Darwin, la relecture de Claude Bernard, qui, je pense, nourrissent une pensée scientifique et permettent de comprendre les questions scientifiques. Hein, parce que on ne fait plus les manips de la même façon avant... après avoir lu Claude Bernard et avant l'avoir lu, après avoir lu Darwin ou avant, après avoir lu Turing et avant. En relisant Turing grâce à Jean-François, j'ai découvert des choses que je faisais dans mon laboratoire d'un œil tout à fait nouveau. En fait, ce qu'on a fait, c'est des morphogènes de Turing, mais je ne m'étais pas rendu compte parce que j'avais lu Turing, mais j'avais lu du Turing, d'accord ? Ce n'est pas la même chose. Donc, d'une certaine façon, pour moi, c'est me... À chaque fois, je dis, oh là là, qu'est-ce que tu as encore foutu sur le dos ? On t'a demandé d'écrire un truc sur Claude Bernard. C'est rasoir, t'as autre chose à faire, etc. Mais je dis toujours oui, enfin presque toujours oui, si je suis en empathie avec la personne. Hein. Je dis presque toujours oui parce que je sais qu'il y a un gain pour ma science, d'accord ? Pour ma science diurne. Donc, c'est pas quelque chose... Cette activité que vous appellerez littéraire, entre guillemets, je suis pas un littérateur, mais cette activité que vous appellerez littéraire, pour moi, fait partie de l'activité scientifique. Pour moi, hein, je ne dis pas que c'est pareil pour mon collègue de droite ou de gauche, ou de dessus, de dessous, mais pour moi, c'est très important parce que, en fait, ça me fait penser en science. Et je crois que ça a des effets importants sur ce qu'on fait dans le labo, dans la journée. Donc, quand Jean-François me dit, après des pièces sur Darwin qu'on a fait ensemble, des pièces sur Ovid, sur les métamorphoses d'Ovid, la génie pythagoricien, ça m'intéressait parce que chez Ovid, il y a de la morphogénèse très rapide. Hein. Vous transformez un homme en caillou, une femme en vache, ou, voilà. Et c'est comme ça, hein. C'est pas comme nous, c'est plus difficile. Ça prend plus de temps de faire la transgénèse chez nous. Donc ça m'intéressait de voir cette idée de changement de forme chez Ovid, quand même, comparée à, ou même l'origine du monde, parce qu'il y a de très beaux textes sur l'origine du monde chez Ovid, sur la création du monde. Au début, un amant en un seul tout, etc. Non, des choses très très belles sur le chaos. Bon, ça m'amusait. En même temps, bon, c'est toujours intéressant de parler avec un homme intelligent. Et Jean-François est un homme d'une intelligence extrême. Hein, et puis là, la dernière, ben, on a monté donc ça à la colline. Enfin, il l'a monté à la colline. Moi, de nouveau, je renvoie la balle surtout. Vous savez, je suis un envoyeur de balles. Mais j'écris beaucoup avec lui. Et après, à partir de ça, il fait son boulot. Mais bon, il y a beaucoup de travail au départ. D'écriture. Et puis, c'était la question posée, sans prendre parti de nouveau, de qu'est-ce que les nouvelles techniques de reproduction changent dans les sociétés contemporaines. C'est-à-dire, quand vous pouvez faire un enfant avec le sperme congelé du grand-père, quand deux hommes peuvent faire un enfant, ou deux femmes peuvent faire un enfant, quand vous êtes le cousin du père du mari, enfin, je ne sais pas, les relations de parenté changent énormément. Qu'est-ce que ça change, hein, quand se reproduire, c'est le technicien qui apporte une pipette près d'un œuf qui fait rentrer un spermatozoïde. Ah, j'ai fait un enfant. Vous voyez, c'est autre chose que de le faire à l'ancienne quand même. Ça n'a pas tout à fait la même portée. Et que pensent les parents quand ils regardent le truc en train de se faire comme ça, chacun dans son fauteuil. Vous voyez, donc ça ouvre des questions extrêmement intéressantes. Et qui sont des questions sociétales, et qui sont une façon dont la science, d'un coup, va quand même bouleverser des choses qui sont extrêmement anciennes. Ce n'est pas dire que c'est mal, ce n'est pas dire que c'est bien. Il s'agit de mettre ça en avant, que les gens, tout d'un coup, comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et ce texte qui a finalement émergé de nos discussions et qui a été joué au Théâtre de la Colline... Quand on, un an après, on lit tout ce qui s'est lu sur le mariage pour tous et la PMA, etc., on s'est dit que finalement, on n'était pas tombé trop loin, hein, de ce qu'il fallait faire, d'une certaine façon, pour donner les outils pour comprendre de quoi il retourne.
Une toute dernière question, si vous permettez, Alain Prochian. Qu'est-ce qui vous tracasse, vous, actuellement, Alain Prochian, biologiste ?
Moi, ce qui me tracasse le plus, c'est l'instabilité du vivant. Donc, me tracasse. Ça me tracasse pas, mais...
Enfin, je vous parle de tracas, pas au sens négatif.
Ce que j'aimerais
qui vous anime.
Ce que j'aimerais comprendre, si vous voulez, c'est ce lien entre cette instabilité et cette stabilité qui fait qu'on est capable de dire « je suis moi ». Et les relations de ce rapport entre l'instabilité du vivant et cette stabilité quand même minimum, même maximum conservée, dans son rapport avec le moment où ça déraille. Parce que vous savez, une maladie, il n'y a pas une physiologie pour construire les animaux et une physiologie pour les détruire. Il n'y a qu'une seule physiologie et une pathologie, c'est toujours une physiologie qui déraille. Et donc, mon laboratoire a découvert une nouvelle voie physiologique. Je n'ai pas ici pour raconter ce qu'on fait dans le détail et faire la pub du labo, mais... Ça nous a amené à nous poser des questions en pathologie de façon différente. Et donc, de ce fait, je m'intéresse à des pathologies du système nerveux, deux essentiellement, la maladie de Parkinson et ce que j'appellerais les schizophrénies. Voilà. Oui, ce sont des questions qui... C'est un peu tard pour démarrer ça, j'entends bien. Mais bon, j'espère que je m'amuserai encore quelques années... en développant ces recherches, autour d'une voie de signalisation que mon laboratoire a eu la chance de découvrir il y a une vingtaine d'années, en fait, déjà. Oui.
Et vous pensez qu'un jour, on pourrait trouver, par exemple, des médicaments qui permettrait de, disons, non pas de résorber la schizophrénie, mais du moins de...
Mais c'est déjà, si on comprend le processus développemental et physiologique à l'origine de ces déraillements, on sera plus près de trouver des stratégies thérapeutiques adaptées. Voilà, c'est ça l'idée. Vous savez, c'est pour ça que je suis un grand défenseur des recherches fondamentales, parce que, vous savez, les très grandes découvertes, pour finir, hein, de ces 20 dernières années, c'est, je dirais, l'instabilité des génomes. Et ça, c'est découvert par Barbara McClintock, qui regardait la couleur des grains de maïs sur un épi. Et l'autre, c'était l'ARN interférentiel, qui a été découvert par des gens qui s'intéressait à la couleur des pétales de pétunia, d'accord ? Je ne connais pas un plan Alzheimer ou un plan Parkinson qui aurait financé des recherches sur le maïs ou sur les fleurs de pétunia. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont les deux grandes découvertes de ces 20... Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que ce sont les choses qui ont bouleversé notre vision de la biologie sur les 20 dernières années. Et donc, qui nous donnent un regard neuf et différent sur les pathologies aussi. Et donc, c'est pour ça que... ouais, j'espère qu'on trouvera des trucs, j'en sais rien, hein, mais bon, il reste encore un peu de temps, voilà.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Alain Prochian, titulaire de la chaire des processus morphogénétiques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne de Pelchin. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Carole Beffa, titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France. En remontant le fil de l'histoire du vivant, nous constatons que nous partageons des ancêtres avec les poules et les poissons, les plantes et les hydres, et ainsi de suite, jusqu'à l'apparition des premiers êtres vivants. On ne sait trop comment s'est produit ce début du vivant, passage de l'inorganique à l'organique, une probabilité nulle, enfin, pas tout à fait, puisque vivant il faut se rendre à l'évidence. En tout cas, 3 à 4 bons milliards d'années se sont écoulées entre ces premières formes vivantes et nous. Et aller au zoo ou au jardin botanique, c'est bien, d'une certaine façon, rendre visite à la famille. Alain Prochian, Qu'est-ce que le vivant ? Paru aux éditions du Seuil.
Le singe descend de la rue Darwin, il se rend au zoo sans concession. Vivre avec des hommes sans estime, tu parles d'une évolution. Un taxi pour le futur bipède dans le coffre, son baluchon. Le bulletin d'adhésion au club Med, la photo bâton d'une guenon. Des coquilles va plus faire le malin. On ne remonte pas la rue Darwin, c'est sens unique et c'est pas bien. Du pied de la butte aux eaux de Vincennes, la TSF parle de forêt. Voulu lui faire de la peine, il savait pas que ça existait. Il jette un billet au chauffeur qu'il a bien aimé dans Grestock. le coucou à la girafe en pleurs, montée d'en haut, sale gosse qui se moque. Oh, sur le piano des cousines, va plus jouer à quatre mains. On ne remonte pas la rue Darwin, c'est sens unique et c'est pas bien. Bien chef, ouvre les grilles, l'enfant prodige est de retour. Ça va faire chaud à toutes les filles du zoo et de ses alentours.